RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et le magazine musical. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie demande de renforcer le partenariat pour réaliser l'agenda des Nations Unies 2030. Les chefs d'État de l'ASEAN se sont réunis à Bali. La Corée propose d'élargir l'accès au financement de PME indonésiennes. L'Indonésie a gagné les investissements des infrastructures d'un montant de 20,5 trillions roupias de la réunion du FMI. L'Indonésie développe des plastiques à base de manioc. Le vice-président Yusuf Kalla et le secrétaire général des Nations Unies ont visité des résidents après le séisme dans le centre de Sulawesi. Les auditeurs, voici le journal complet. L'Indonésie a intégré 94 de 169 cibles des objets de développement durable, ou ODD, au cours des 5 premières années de 2015 à 2019. L'Indonésie inclura tous les objectifs dans le plan des 5 prochaines années. Et sur 241 indicateurs d'ODD, 165 d'entre eux sont bien définis et ces données sont également disponibles. Bambang Brojonegoro, ministre indonésien de la planification du développement national, a déclaré à Nusa Dua Bali vendredi 12 octobre. Dans son discours dans la discussion intitulée « Mettre en œuvre les objectifs de développement durable dans un monde en mutation », la localisation, l'inclusion et les investissements utiles. Bambang Brojonegoro a déclaré que l'Indonésie a fait décentraliser la plupart de ses efforts de développement vers le gouvernement local. Par conséquent, les objectifs de développement durable doivent également être localisés au niveau infranational, au niveau des provinces, des districts ou des villes. Il a déclaré que le principe de la mise en œuvre des objectifs de développement durable était le principal défi de l'Indonésie. Mais l'Indonésie a résolu ce défi en impliquant le gouvernement, le Parlement, le secteur privé et la société civile. Par conséquent, il a souligné la nécessité de renforcer les partenariats pour réaliser le programme de l'Organisation des Nations Unies en 2030.
As we have agreed, we need to further out.
Comme nous en sommes convenus, nous devons poursuivre nos efforts pour mettre fin à la pauvreté et à la famine dans le monde pour lutter contre les inégalités au sein des pays ou entre eux, afin de construire des sociétés pacifiques, justes et inclusives, afin de protéger les droits de l'homme et de promouvoir la protection de la planète et de ses ressources naturelles. Dans son discours, le ministre Bambang Brojonegoro a également remercié le FMI et le groupe de la Banque mondiale de prêter une attention particulière à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier dans les domaines de la localisation, de l'intégration et de l'impact sur les investissements. Il a également insisté à la communauté internationale à poursuivre ses efforts pour le bien-être de la population sans sacrifier la nature pour atteindre les objectifs de développement durable. Les dirigeants de l'ASEAN ont tenu une réunion en marge de la réunion du FMI et de la Banque mondiale 2018 jeudi à Nusa Dua, Bali. Au cours de la réunion intitulée « Atteindre les objectifs de développement durable et résoudre les lacunes en matière de développement à travers une action collaborative régionale et mondiale », diverses questions ont été discutées liées à l'engagement de renforcer la coopération, la croissance économique et le développement durable. En outre, le Premier ministre Li a déclaré que les pays de l'ASEAN étaient déterminés à multiplier les efforts de coopération économique régionale globale. Concernant de cela, il espérait que ces partenariats obtiendraient des résultats positifs à la fin de 2018. Toutefois, la première ministre Li a également compris le défi auquel l'ASEAN est confronté pour parvenir au développement durable. Ces défis incluent la restructuration économique, l'urbanisation accélérée au vieillissement de la population. La Corée du Sud, par l'intermédiaire de la Banque industrielle de Corée, offre l'élargie de l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, indonésiennes avec diverses facilités. Le secrétaire du ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, ou MPME, Meliadi Sembiring, a déclaré récemment à Nusa Dua, Bali, lors d'une réunion bilatérale avec le PDG de la banque industrielle coréenne, Kim Do-jin, que la Corée du Sud avait spécifiquement proposé d'élargir l'accès au financement des MPME en Indonésie. La Corée accorde une priorité spéciale au crédit aux MPME d'Indonésie. À cette fin, la Banque industrielle de Corée ouvrira une succursale en Indonésie. Pour la première phase, la Banque industrielle de Corée ouvrira une succursale à Jakarta et dans d'autres régions. Le processus et les exigences nécessaires à la Banque industrielle de Corée pour opérer en Indonésie sont déjà dans la phase finale. L'Indonésie, par 14 entreprises d'État ou BUMN, a obtenu les investissements jusqu'à 13,5 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 202,5 billions roupias, dans le développement de projets d'infrastructures. Cet investissement a été obtenu dans l'accord lors de la série de la réunion annuelle du Fonds monétaire international, ou FMI, et de la Banque mondiale 2018 à Nusa Dua, Bali. La ministre de l'Entreprise d'État, Rini Sumarno, au Forum indonésien sur les infrastructures à Nusa Dua, Bali, a déclaré que 80% de la valeur totale des investissements était la coopération sous la forme de partenariats stratégiques entre les entreprises d'État et les investisseurs, le reste étant sous forme d'investissement via le marché des capitaux et le financement de projets. René Sumarno a déclaré que l'accord de financement était une solution pour ajouter des sources de financement alternatives au milieu de la nécessité de construire beaucoup de projets d'infrastructures. En plus de l'accord d'investissement, l'Indonésie a également signé un accord de coopération pour la couverture de risques de change fondée sur la charia. La couverture de charia est la première à être mise en place en Indonésie, a déclaré la ministre Rini. L'Indonésie continue de développer de nouvelles innovations dans la lutte contre les déchets plastiques en fabriquant des plastiques à base de manioc. Le fondateur de Green Hope Indonesia, Tommy Ciptajaya a déclaré à la Voix de l'Indonésie à Jakarta récemment, lors d'une réunion à New York, le ministre indonésien de la coordination maritime et Green Hope Indonesia avait expliqué l'engagement du gouvernement indonésien dans la lutte contre les déchets plastiques en fabriquant des plastiques à base de manioc. Nous étions à New York, j'étais avec le ministère des Affaires maritimes. Il a déclaré l'engagement du gouvernement indonésien à lutte contre les déchets plastiques, en particulier les déchets en mer. On a également présenté la solution indonésienne avec la disponibilité d'une quantité extraordinaire de manioc. La fabrication de plastique biodégradable à base de manioc est très économique, compétitive et peut être une partie de la solution. Tommy Ciptajaya a souligné que l'innovation fait partie de l'Indonésie a reçu l'appréciation de la communauté internationale. L'Indonésie fréquemment invitée aux forums internationaux qui sont entièrement financés par le comité. Green Hope Indonesia est actuellement le membre du forum de la Banque mondiale, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat social où il n'est pas tous les institutions peuvent devenir son membre. Le vice-président Youssouf Kalla et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont rendu visite aux victimes du séisme dans le centre de Sulawesi, dans les hôpitaux de campagne, aux postes de refuge et sur plusieurs points touchés dans la ville de Palu, vendredi 12 octobre. Avant de se rendre sur plusieurs points, le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes naturelles, Willem Rampangile, a expliqué à l'aéroport Mutiara, Al-Jufri, la ville de Palu, au vice-président, secrétaire général de l'Organisation Nations Unies et représentant de la Banque mondiale sur les zones touchées par le séisme, les tsunamis et la liquéfaction, ainsi que les mesures d'urgence prises après le séisme. Willem a déclaré que la gestion d'urgence était toujours en cours et le gouvernement de la province de Sulawesi Central avait prolongé son statut jusqu'à 26 octobre 2018. Le secrétaire général des Nations Unies était très impressionné par la gestion des catastrophes par le gouvernement indonésien, car le gouvernement était très attentif à la gestion des catastrophes. La gestion peut être mieux faite après la réparation de l'accès à la terre et à la mer, et la récupération des services publics de base tels que l'électricité, l'eau et le fioul. Les auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Bonsoir les auditeurs, on se retrouve encore dans les nouvelles de l'Indonésie, un programme qui vous présente les informations intéressantes de tous les coins du pays en une semaine. La première nouvelle est venue de Bandung, Java de l'Ouest. Le festival du Kaulinan Urang Lembur 2018 ou le festival du jeu communautaire du village 2018 s'est déroulé au théâtre fermé du parc culturel de Java de l'Ouest, la rue de Insinyur Haji Juanda ou Dago, Bandung, du jeudi 11 octobre au samedi 12 octobre. On pense que ce festival rare est capable de perfectionner la créativité. Mas Nanu Muda, le président de l'équipe créative du festival, a déclaré que le but de l'organisation de cet événement était de présenter le potentiel de la sagesse locale lié à Kaulinan Urang Lembur ou à des jeux traditionnels, mais on présentait comme des spectacles. Nanu Muda espère que ce festival de jeux traditionnels pourra sensibiliser chaque individu impliqué, en particulier les enfants, à la préservation du patrimoine culturel. La nouvelle suivante est venue de Bau Bau, Sulawesi du Sud-Est. Dr. A.S. Tamrin, le maire de Bau Bau, Sulawesi du Sud-Est, a déclaré que le 477e anniversaire de Bau Bau et le 17e anniversaire en tant que région autonome était un élan de renouveau et un enthousiasme partagé pour la création et l'innovation du développement régional. Lors de son discours, à la même occasion, lors de l'ouverture du Baobab Expo 2018 qui s'est tenu à la ville de Baobab jeudi soir 11 octobre, il a invité toutes les composantes du développement de la région à apporter une contribution constructive au développement durable. À cette exposition de développement, chaque participant, y compris les entreprises publiques ou BUMN, les entreprises régionales ou BUMD et les entreprises privées ou BUMS, a présenté les programmes et les travaux réalisés. La dernière nouvelle est venue de Palu, Sulawesi Central. L'un des navires de la marine militaire indonésienne du Centre hydrographique et océanographique de la marine militaire indonésienne, ou Pusidrosal, KRI Spisa 934, a découvert l'existence d'une avalanche de fond océanique à une profondeur de 200 à 500 mètres à Tanjung Labuan ou à Teluk Palu, quand ils ont étudié et cartographié le séisme et le tsunami dans les eaux de la baie de Palu. Kapusidrosal Laksamana Muda, TNI Harjo Susmoro, a déclaré vendredi que les résultats de ces données avaient été obtenus par KRI Spisa après avoir effectué une étude complète couverte en utilisant un multibeam Echosonder IM-302 qui est capable de mesurer des profondeurs jusqu'à 6000 mètres à l'intérieur de la baie de Palu. Harjo a dit que les résultats obtenus par l'équipe Pusidrosal avaient été confirmés par les experts de tsunami, Dr. Gegar Saptaprasetya et Dr. Rahman Hidayat, qui ont pris part à bord du KRI Spisa et l'ont appelé affaissement sous-marin, qui était estimé comme étant à l'origine du pouvoir du tsunami. Le Centre Amilar Harjo Susmoro a déclaré que les glissements de terrain sous-marin était très difficile à prévoir, même si divers dispositifs de détection précoce avaient été installés. Voici les nouvelles de l'Indonésie.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 13 octobre. Le 13 octobre 1976, un avion bolivien s'est écrasé. Le Boeing 707 s'est écrasé à Santa Cruz, en Bolivie, et a tué 100 personnes. L'avion s'est écrasé dans un bâtiment au centre-ville et a détruit un terrain de football situé à proximité de la piste. L'avion a perdu le contrôle à l'un de ses quatre moteurs après avoir décollé à 13h30 heure locale. Des responsables de l'aviation bolivienne ont déclaré que plusieurs personnes avaient entendu le bruit d'une explosion avant le crash de l'avion et ont constaté l'incendie d'un des moteurs de l'aile gauche. Les débris se sont ensuite écrasés dans un magasin et ont finalement détruit le terrain de football utilisé. Certains spectateurs seraient morts sur le coup. L'appareil appartient à Jet Power Inc. à Miami, en Floride, et est loué par la compagnie aérienne nationale, Layot Aerono Boliviano. Avant de subir un accident mortel, un Boeing 707 avait livré le moteur pour permettre la construction d'un puits de pétrole et d'autres biens entre Houston, Texas et Santa Cruz. Le 13 octobre 1977, quatre Palestiniens ont détourné un avion allemand Lufthansa Airlines. Ils ont exigé la libération de 11 prisonniers terroriste Bader Meinhof, mieux connu sous le nom de faction de l'armée rouge. Le groupe de gauche terrorise l'Allemagne depuis 30 ans. Ce groupe a tué plus de 30 personnes appartenant au milieu des affaires de l'armée et du gouvernement. Le but de tuer est de renverser le capitalisme en Palestine. Les pirates de l'air ont transporté l'avion dans les airs et ont traversé au moins 6 pays. Finalement, l'avion a atterri à Mogadiscio, en Somalie, après que les pirates de l'air aient tiré sur un pilote. Les forces spéciales allemandes l'ont immédiatement entouré à son arrivée à l'aéroport de Somalie. Ils ont libéré 86 otages et tué 3 des 4 pirates de l'air. Le 13 octobre est commémoré chaque année par la communauté mondiale comme la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Cette journée a été conclue par l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager les communautés et le gouvernement à participer à la construction de communautés résistantes aux catastrophes naturelles. Par la résolution 44 ou 236 du 22 décembre 1989, le Conseil général des Nations unies a initialement fixé le deuxième mercredi d'octobre de chaque année comme la Journée internationale de la réduction des catastrophes naturelles. Ce n'est que le 21 décembre 2009 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 13 octobre comme date de commémoration de cette journée et s'appelle la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Les éditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tout le monde, voici mon Indonésie dont le titre est l'Organisation de coopération et de développement économique juge la dette du gouvernement indonésien faible et maintenue. L'étude économique de l'Organisation des coopérations et de développement économique, ou OCDE, en 2018, indique que la dette du gouvernement de la République d'Indonésie est toujours faible et maintenue. La secrétaire générale de l'OCDE, Angel Gurria, lors du lancement de l'étude économique de l'Indonésie 2018, lors d'une série d'assemblées annulées, de l'IMF ou WBG à Nusa Dua, Bali, a présenté les résultats de l'enquête économique de l'OCDE en Indonésie, dont l'emporté sur la dette publique. Selon Angel Gurria, l'existence de règles relatives au déficit budgétaire a étouffé la croissance de la dette. Cependant, les dépenses supplémentaires en infrastructures, santé et assistance sociale sont limitées par le faible revenu. Par conséquent, selon Gurria, les ressources doivent être obtenues par une meilleure efficacité et des plus grands revenus. Angel Gurria a expliqué que le niveau de confiance au gouvernement indonésien est supérieur à celui de tous les pays de l'OCDE. L'enquête économique de l'Indonésie auprès de l'OCDE est menée régulièrement tous les deux ans depuis 2008. L'enquête de 2018 marque également le 10e anniversaire de la collaboration du gouvernement indonésien avec l'OCDE dans le cadre de ce programme. En général, l'OCDE note que le niveau de vie en Indonésie continue également d'augmenter. Angel en a parlé grâce à une forte expansion économique et aux bonnes politiques gouvernementales, de sorte que le taux de pauvreté et d'inégalité a diminué et que l'accès aux services publics s'est élargi. L'OCDE note également que les revenus par habitant augmentent en Indonésie, bien que malheureusement, le déficit d'infrastructures reste important et que les dépenses de santé et l'assistance sociale doivent être ajoutées pour accroître l'inclusion. Selon Angel Gouria, le bien-être social sera également meilleur si les résultats liés à l'environnement attirent plus d'attention. Angel a ajouté que la croissance économique indonésienne devrait se maintenir dans la fourchette de 5% par an, une tendance qui s'est maintenue depuis 2013 sous l'implosion de facteurs de consommation et plus récemment grâce aux investissements dans les infrastructures nécessaires. Alors que l'inflation annuelle se situe dans la moyenne de 3,5% ou plus ou moins 1%. Angel Gouria a dit que cette étude de l'Organisation de coopération et de développement économique a également été réalisée en tenant compte de deux facteurs importants. Augmenter les recettes publiques pour une croissance favorable et développer le tourisme afin de promouvoir la durabilité du développement régional. En réponse à l'enquête de l'OCDE, Sri Mulyani s'est dite très heureuse que l'opinion générale de l'OCDE sur l'économie indonésienne soit très positive et très inspirante. Sri Mulyani a révélé que selon les résultats de l'enquête économique indonésienne réalisée par l'OCDE, l'économie indonésienne connaissait une croissance positive malgré les pressions exercées par le ralentissement économique mondial. Selon Sri Mulyani, cette étude a souligné que le gouvernement devait augmenter les revenus, renforcer la jeunesse en tant qu'atout de développement inexploité et renforcer le secteur du tourisme. Selon Sri Mulyani, le partenariat avec l'OCDE est une occasion de partager des expériences dans deux directions en matière de développement inclusif et durable. L'OCDE est une organisation regroupant 36 pays économiquement développés. Sri Mulyani a expliqué que l'Indonésie pourrait étudier l'expérience des pays en développement membres de l'OCDE. Sri Mulyani a également déclaré que l'Indonésie coopérait avec l'OCDE parce que c'était conforme à la nature des Indonésiens qui aiment apprendre et partager leurs expériences. Les auditeurs, c'était mon Indonésie. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant la province Yogyakarta pour profiter de la beauté de Blue Lagoon ou la Lagune Bleue. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de la Voix de l'Indonésie.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Blue Lagoon n'existe pas seulement en Islande en Europe, mais également dans la région spéciale de Yogyakarta, rue Kaliurang, kilomètre 13, village de Dalem, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman. Cette lagune bleue était autrefois une source utilisée pour répondre aux besoins de la population du village Ngemplak et de ses environs. Mais au fil du temps, le printemps est devenu une attraction touristique très demandée par les touristes nationaux et étrangers. En fait, le nom officiel de Blue Lagoon et le bain public Tirta Budi. Mais beaucoup de touristes l'appellent Blue Lagoon. C'est parce que l'eau du bain public Tirta Budi est bleue et claire, très belle. Bien que ce bain soit petit, il est capable d'attirer l'attention de nombreuses personnes. Du centre de Yogyakarta, au Blue Lagoon, c'est seulement 15 km et peut être atteint en 40 minutes. Avant d'arriver au Blue Lagoon, il faut emprunter le chemin qui n'est pas trop éloigné. En chemin, vous ne vous sentirez pas fatigué car vous serez traité dans un paysage naturel magnifique et exotique. Le bain Tirthabudi est ouvert de 7h au coucher du soleil, ainsi vous pouvez être plus satisfait en explorant l'excitation ici. Une fois arrivé à Blue Lagoon, vous verrez trois sources naturelles. Sur le côté gauche se trouve Sendang ou le lac Huadun, tandis que sur la droite se trouve Sendang Lanang. Ici, il y a une douche naturelle et peut être utilisée comme un lieu de massage naturel. La lagune bleue, qui est la piscine principale, est située au milieu. Cette piscine est un lieu de prédilection pour les touristes qui jouent à l'eau tout en essayant de sources naturelles fraîches, car dans ce bain Blue Lagoon, vous pourrez vous détendre et nager. La profondeur de la piscine est d'environ 1 à 3 mètres. Le meilleur moment pour visiter Blue Lagoon à Yogyakarta est pendant la saison sèche, par temps ensoleillé. Lorsque le temps est clair, la clarté de l'eau aura l'air si parfaite. Mais si vous venez en vacances, vous devriez venir le matin. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas beaucoup de visiteurs, vous pourriez donc être satisfait de nager ou de vous baigner. Après vous être content de jouer à l'eau, de tremper et de nager, vous pouvez vous arrêter au kiosque autour de la piscine tout en dégustant des plats ou des collations. Une atmosphère typiquement rurale vous fera certainement sentir chez vous pendant longtemps. Pendant que vous vous détendez, vous pouvez également prendre des photos avec le fond de la belle campagne. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. On se rencontre dans la rubrique L'Indonésie en couleur avec moi, Tiwi. Cette édition va parler du marché de la peinture d'art d'Indonésie 2018. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Parlons de Kurt de 3325 kHz ou par www.voinews.id. Les auditeurs, si vous êtes amateur de peinture ou collectionneur de peinture, visitez le marché de la peinture d'art d'Indonésie 2018. Cette année, l'événement qui a été inclus dans le 100 calendrier des événements de Wonderful Indonesia 2018 est la 11e édition. Cet événement se tiendra du 12 au 21 octobre 2018 au GX International Surabaya. Le marché de la peinture d'art d'Indonésie 2018, également connu sous le nom de Indonesia Art Mart, est le plus grand événement de peinture en Indonésie. Il s'agit non seulement d'une exposition de peinture, mais également d'un lieu où des peintres rencontrent et d'un lieu où les ventes directes se produisent entre artistes et le consommateur. Cette année, ce marché sera participé par 200 artistes qui présenteront leurs dernières œuvres. Ces peintres ne venaient pas seulement d'Indonésie, mais aussi de pays asiatiques. Les auditeurs, cet événement annuel fait partie d'une série d'activités organisées à l'occasion du 73e anniversaire de la province de Java de l'Est. Non seulement les activités liées à la peinture, mais il sera aussi animé par le théâtre, la performance musicale et la danse contemporaine. Le marché de la peinture d'art d'Indonésie 2018 organise également des concours de peinture les meilleures destinations touristiques d'Indonésie pour des Pesona Awards. On espère que cet événement attire des touristes nationaux et étrangers. Les auditeurs, c'est toute l'édition de l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui. On se retrouvera avec d'autres sujets intéressants. Au revoir. Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. L'édition du magazine musical d'aujourd'hui va vous présenter des chansons des chanteurs qui s'appellent Adera. Pour commencer notre rencontre, je vous donne la chanson intitulée Lebih Indah ou en français Plus Belle. Bonne écoute!
Membuat
Voilà la chanson intitulée « Lebih Indah » d'Adera. Cette chanson raconte quelqu'un qui a promis de ne plus ouvrir la porte de son cœur pour personne. Mais la réalité parle différemment. De façon inattendue, son cœur est à nouveau ouvert, cela rend sa vie plus belle. Un homme dont le nom complet est Adera Prabhulanti Tranginas a publié le premier album en 2011 intitulé « Lebih Indah ». À cette époque, cette chanson téléchargée via le compte YouTube d'Adera était regardée par les connaisseurs de YouTube en Indonésie et rassemblait de nombreux abonnés et de centaines de milliers de téléspectateurs. Adera est la fille du légendaire musicien indonésien, s'appelle Ebit Gade, qui est connu pour avoir interprété de nombreuses chansons à thème social. Malgré tout, Adera dit qu'il ne convient pas de chanter des chansons avec de longs poèmes comme son père. Celui qui aime la musique coréenne dit qu'il poursuivra sérieusement le monde de la musique. Les auditeurs, écoutons une chanson intitulée « Di Antara Kita » ou en français « Entre nous » apportée par Adera.
Saat lelahku mencari cinta yang tak kunjung datang, kau selalu ada di sini. Di depan mataku tempat untukku berbagi perasaan yang tersimpan, namun tak kuduga kaulah yang kutunggu. Canda kita tetap sama, tawa kita tak berubah, namun ada yang berbeda. Ku rasakan itu dari tatapan matamu yang bicara. Ada sesuatu di antara kita. Semua telah terjadi, sudahlah nikmati saja keadaan ini. Namun sungguh tatapanmu yang bicara, ada sesuatu di antara kita. Hmm.
antara kita. Biarkan saja dia berbunga.
Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « D'Antara Kita » par Adira. Cette chanson raconte d'un père d'amis étant toujours ensemble, partageant des histoires. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent. L'amour commence à se développer. Il espère que l'amour deviendra réel et non unilatéral. Les auditeurs, écoutons deux autres chansons d'Adira intitulées Terlambat ou en français En retard et Melukis Bayangmu ou en français Peindre ton reflet. Ces deux chansons terminent notre édition d'aujourd'hui. Je me dis au revoir, bonne écoute et à bientôt.
Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya, mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Satu masa ketika ku menemukan cinta, saat itu kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. Meskipun saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam pelukanmu. Oh, biarkan bayangmu, karena semua mungkin akan sirna bagai rembulan sebelum fajar tiba. Kau selalu ada walau tersimpan di relung hati terdalam.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voines.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Mana pernah kuduga kau kan tiba menghapus semua luka yang kurasa, membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh, membiarkan asmara cara sejujurnya melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta, ku temukan kembali saat kau menyinari hidupku. Bagiku kaulah yang membuat dunia indah, mewarnai hari-hariku, sempurnalah jiwaku bahagia bersamamu.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.